Chers amis, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes ici dans ce lieu, aujourd'hui, en ce vendredi saint de l'année 2021, nous sommes extrêmement heureux d'être avec vous pour commémorer un événement relaté dans la Bible qui est fondateur de notre foi. Et nous allons donc entendre la lecture de la Passion dans un évangile particulier qui est l'évangile de Jean. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Dominique Hernandez, qui est pasteur au Foyer de l'Âme, et nous accueillons tous les amis du Foyer de l'Âme qui sont là aujourd'hui avec nous, puisque le Jeudi Saint et le Vendredi Saint, nous avons préparé ces deux moments en communion les uns avec les autres et en collaboration étroite. Nous sommes très heureux aussi de partager ce moment avec le chœur de l'Oratoire du Louvre qui nous fait l'amitié d'être là et qui va chanter avec nous, qui va surtout chanter pour nous la plupart du temps, puisque le premier cantique, on le chantera ensemble, mais ensuite c'est le chœur qui chantera des extraits de la Passion selon Saint Jean de Bach. Nous sommes accompagnés par Sarah Kim qui est à l'orgue, et nous aurons la chance d'entendre le soliste Samuel Zatouni Roufi, qui va chanter aussi un choral de la Passion selon Jean. Merci aussi aux lecteurs qui vont nous conduire dans ce récit de la Passion, Aurore Sagliotebo, Quentin Bourgault, Julia Toisson et Micheline Baucher-Lemilon. Merci à vous d'avoir participé et lu ce passage pour que nous puissions entendre à nouveau ce beau récit. Nous sommes maintenant dans un temps particulier. Nous y entrons et nous allons y entrer avec le cantique qui est indiqué sur vos livrets que vous trouvez dans le Louange et prière, le 143, les strophes 1, 2 et 3, et nous chantons tous ensemble.
De chez Caïphe, il mène Jésus au prétoire. Il est très tôt. Eux n'entrent pas dans le prétoire pour ne pas commettre d'impureté et pouvoir manger la Pâque. C'est donc Pilate qui sort au devant d'eux et demande.
De quoi accusez-vous cet homme ?
S'il n'avait rien fait de mal, on ne te le livrerait pas.
Gardez-le et jugez-le selon votre loi.
Nous ne sommes pas autorisés à mettre à mort.
Il fallait pourtant que la parole de Jésus sur la mort qu'il allait subir se réalisât. Pilate rentre dans le prétoire, fait appeler Jésus et lui demande.
Es-tu le roi des Juifs ?
Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit-il dit ?
Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et ses grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?
Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici.
Tu es donc roi.
C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Qui cherche la vérité, écoute ma voix.
Qu'est-ce que la vérité ?
Sur ce, il sort de nouveau et dit aux Juifs :
Je ne trouve en lui rien de condamnable. Et puisque votre coutume veut que je libère un des vôtres à Pâques, voulez-vous que je libère le roi des Juifs ?
Ils recommencèrent à crier :
Pas lui, Barabbas !
Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fait saisir et fouetter Jésus. Les soldats, ayant tressé une couronne avec des épines, la posent sur sa tête, le revêtent d'un manteau de pourpre, puis se présentent devant lui en disant
« Salut, roi des Juifs !»
Et ils lui flanquent des coups. Pilate sort de nouveau.
« Voyez, je vous le ramène. Je ne trouve en lui rien de condamnable. Sachez-le. »
Jésus sort. Il porte la couronne d'épines et le manteau de pourpre.
Voici l'homme.
En le voyant, les grands prêtres et les gardes se mettent à crier.
« Crucifie ! Crucifie ! »
« Chargez-vous-en, crucifiez-vous-même. Moi, je ne trouve rien de condamnable en lui. »
« Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il s'est fait lui-même fils de Dieu. »
À ces mots, Pilate a encore plus peur. Il retourne dans le prétoire et demande à Jésus.
« D'où viens-tu ? »
Mais Jésus le laisse sans réponse.
« Tu ne me parles plus ? Sais-tu bien que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te crucifier ?»«
Ton pouvoir sur moi t'a été donné de là-haut, sinon tu n'en aurais aucun. » Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi commet une lourde faute.
Dès lors, Pilate cherche à le relâcher, mais les Juifs crient.
Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Tout homme qui se fait roi s'oppose à César.
À ces mots, Pilate fait reconduire Jésus dehors et va siéger sur son estrade, au lieu dit Litros Totos, Gabata en hébreu. On est la veille de Pâques, jour de la préparation. Il est environ midi. Pilate dit aux Juifs.
« Voici votre roi. »
« Supprime-le ! Supprime-le ! Crucifie !»«
Moi, crucifiez votre roi ?»
Les grands prêtres répondent.
« Nous n'avons pas d'autre roi que César. »
Alors, il leur abandonne pour qu'il soit crucifié. Ils prennent Jésus. Portant sa croix, Jésus arriva au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate écrivit et fit placarder sur la croix un écriteau qui portait ces mots: Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Le lieu où Jésus fut mis en croix étant proche de la ville, beaucoup de Juifs ont lu cet écriteau qui était rédigé en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres dirent à Pilate:
n'écris pas le roi des Juifs, mais il disait: je suis le roi des Juifs.
J'ai écrit ce que j'ai écrit.
Voici l'heure. C'est l'heure. Cette heure annoncée depuis le début de l'évangile de Jean, quand, à Cana, alors que la noce manquait de vin, Jésus répond à sa mère: mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure. Celle inscrite au premier verset du chapitre 13, au commencement du récit de la Passion, que nous avons lu hier. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus aima les siens qui étaient dans ce monde et les aima jusqu'à l'extrême. C'est l'heure du passage. L'heure de passer du monde au Père, c'est l'heure d'une Pâque, le commencement de Pâques. Pour l'évangéliste Jean, la mort de Jésus est ainsi interprétée. L'envoyé retourne vers celui qui l'a envoyé. En cette heure, Pilate s'agite. Il sort du prétoire, il y entre, intérieur, extérieur, vers les grands prêtres et la foule, vers Jésus. Il questionne, il parle à l'un, aux autres, sans recevoir de réponse claire et sans convaincre qui que ce soit. Lui, le gouverneur représentant le maître du monde, l'empereur de Rome, ne prononce qu'une parole sans autorité et sans écho. Lui que Philon d'Alexandrie décrit comme un homme cruel, inflexible et buté, méprisant et colérique, est pris de peur. Celui qui a été amené devant lui représente une étrangeté qu'il ne comprend pas. Celui qui a été amené devant lui ne peut être inscrit dans aucune case, ni selon aucun code du monde de Pilate. Pilate, dont les représentations, les repères, les convictions semblent soudain de si peu de poids, comme de la buée, de la fumée, une vanité, une illusion. Pilate fait face au vertige d'un au-delà du monde connu, qui surgit dans la présence de cet homme singulier qui distingue la vérité de la religion et la justice du pouvoir. Un homme qui ne craint ni les armes, ni les outrages, ni la mort. Un homme de liberté et de don. Et en cette heure, Pilate cède. Il livre Jésus à la mort, prolongeant ainsi jusqu'à la croix le geste de Judas. Il fallait bien que la parole de Jésus sur la mort qu'il allait subir se réalisât. Cède-t-il face aux cris de mort, aux menaces des grands prêtres qui s'en sont remis à César? Cède-t-il devant l'inébranlable liberté de Jésus, devant cette volonté de déposer sa vie, volonté qui surplombe la volonté de ceux qui veulent prendre sa vie? Alors Pilate écrit. Lui dont la parole n'a pas eu de poids, lui dont l'autorité n'a été reconnue ni par les grands prêtres, ni par Jésus. Il grave quelques mots sur un panneau accroché à la croix où Jésus est crucifié. Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Non seulement il l'écrit, mais il veut le faire connaître le plus largement possible. L'inscription est rédigée en 3 langues, hébreu, grec, latin, et tout le monde entier, peut la lire. Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Comme si le fait d'écrire conférait à la déclaration la densité qui manquait aux paroles prononcées. Comme si la déclaration d'identité s'inscrivait ainsi dans des formes, une forme plus résistante que celle de l'oralité. L'inscription est contestée, mais Pilate la maintient. Il s'accroche à ce qu'il a écrit plus qu'à ce qu'il avait dit, et c'est son dernier mot. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Lui, le magistrat qui n'a pas prononcé de verdict de jugement, veut-il indiquer ainsi le motif de condamnation, un motif de condamnation? Ou est-ce une manière de rendre aux grands prêtres la monnaie de leurs pièces? Ils l'ont manipulé, menacé. Cet écriteau peut représenter une manière de venger l'affront, de mettre en défaut les grands prêtres au lieu même de sa défaite à lui. Ou bien est-ce une manière d'avertissement pour tout prétendant à la royauté sur Israël? L'empereur romain fait et défait les rois, sur Israël comme ailleurs. Toute velléité de contestation de la paix romaine entraîne une répression. Ou encore est-ce une manière de rendre compte d'un bouleversement intérieur éprouvé par le gouverneur? Une manière un peu détournée d'exprimer au moins un doute, doute qu'une légende transformera en conversion de Pilate jusqu'au martyre, la décapitation ordonnée par l'empereur Tibère en personne. Quoi qu'il en soit, ce qu'écrit Pilate, même avec l'obstination de l'écriture, est extrêmement réduit et réducteur, car Pilate reste dans ses catégories habituelles. L'origine de Jésus est indiquée à Nazareth. C'est l'origine géographique. De cette origine géographique de découpage, de territoire, d'invasion, de domination. Cette origine géographique qui fait les mépris, les exclusions, qui fait que tant de vies sont brisées, écrasées, englouties. Roi des Juifs, c'était la première question de Pilate à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Mais cette titulature s'en tient à l'idée mondaine d'un règne de pouvoir, d'injonction, d'intérêt, de corruption. Ce que même ni David ni Salomon n'avaient évité. Et c'est cela qui est accroché, cloué sur la croix, au-dessus de Jésus. La définition, une définition d'un homme par un autre. Le pouvoir de définir un homme, ce qui devient toujours prétexte à se débarrasser de lui. Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. L'origine géographique reste silencieuse sur l'origine essentielle, l'origine vitale de Jésus, origine en Dieu, origine de Dieu. Et le titre manque la dimension véritable et universelle, la vérité du royaume qui n'est pas de ce monde. Mais sur la croix, depuis cette croix, le passage est ouvert de ce monde à la vérité du royaume. Oui, l'heure du passage de Jésus vers le Père, c'est l'heure de la crise des pouvoirs religieux, politiques et personnels. C'est l'heure de la crise des idoles et de la fausse gloire qu'elles procurent. L'heure de la crise des identités qui cloisonnent l'humanité et la hiérarchisent. L'heure venue, cette heure, indique le passage ouvert vers une autre manière d'être vivant, d'être humain dans le monde des humains, vers une autre économie. Économie de dons, de services d'autrui, économie de vie offerte, une économie d'amour jusqu'à l'extrême. Voici l'heure. C'est l'heure. Amen.
Merci infiniment, Dominique, pour cette méditation qui nous porte dans cette lecture. Je vous invite à faire une césure dans notre programme, une pause pour prendre le temps de méditer sur cette méditation. Et je vous invite à participer à cette offrande maintenant pour que notre Église continue à annoncer le salut de Dieu. Merci.
Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie la Magdaléenne. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère,
« Femme, voici ton fils. »
Et à son disciple,
« Voici ta mère. »
Dès lors, le disciple la prit chez lui. Sachant que tout a été fait, il dit encore,
« J'ai soif. »
Pour que se réalise l'écriture. Un vase était là, rempli de vinaigre. Ils ont mis une éponge pleine de vinaigre autour d'une branche d'hysope et l'ont portée à sa bouche. Quand il eut pris la vinaigre, Jésus dit,
« Tout est fait. »
Et, inclinant la tête, il rendit le souffle. Comme cette veille, dite de préparation, était aussi veille de sabbat, sabbat important que ce jour-là, les corps ne devaient pas rester en croix. Pour qu'on puisse les enlever, les Juifs demandèrent à Pilate que les jambes soient brisées. Des soldats vinrent donc briser les jambes de l'un, puis de l'autre des crucifiés. Arrivés à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et jaillit aussitôt du sang et de l'eau. Témoignage de quelqu'un qui a vu, témoignage authentique. Il dit vrai, lui le sait, pour que vous aussi ayez la foi. Ces choses sont arrivées, pour que vous aussi ayez la foi. Ces choses sont arrivées pour que se réalise l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Pilate l'autorisa. Ils vinrent donc et enlevèrent le corps. Vint aussi Nicodème, celui qui était allé le trouver de nuit, porté un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils enroulèrent dans des linges, avec les aromates, comme font les Juifs pour ensevelir. Proche du lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne encore n'avait été mis. C'est là, étant donné le jour, la préparation des Juifs et la proximité du tombeau, qu'ils déposèrent Jésus.
Merci infiniment. Voilà, ce temps est maintenant le temps de l'attente. Nous nous retrouverons dimanche matin. C'était l'heure aujourd'hui.